a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
Philippe Le Caplain.
Le décryptage de la vie politique en France, c'est maintenant sur RFI et c'est avec vous, Émilie Zapalski. Bonsoir.
Bonsoir.
Spécialiste de communication politique et fondatrice de l'agence Émilie Conseil. Alors, il n'est pas content de la politique que mène le gouvernement en matière d'écologie et il le dit sans détour dans le journal. Le président de la République s'exprime dans Le Parisien et dans Ouest-France aujourd'hui, juste avant l'ouverture du sommet de l'ONU sur les océans. En France, c'est à Nice. Emmanuel Macron appelle le gouvernement et le Parlement à, dit-il, maintenir une politique écologique, de ne pas céder aux facilités du moment, sachant que le gouvernement a annoncé cette semaine la fermeture, d'ici au 1er juillet, du guichet de dépôt des dossiers de demande d'aide pour les rénovations énergétiques. Message reçu 5 sur 5 par le ministre de l'Économie qui ce matin annonçait que MaPrimeRénov' reprendra d'ici la fin du mois de septembre. Alors sur France 3, Laurent Saint-Martin, ministre délégué chargé du commerce extérieur et des Français de l'étranger, a précisé les choses.
Ce soir, le président de la République va recevoir plus de 50 chefs d'État et de gouvernement à Nice pour lancer demain la conférence des Nations Unies sur l'océan. Cette ambition environnementale, la France en est un porte-voix maintenant parmi les plus puissants au monde. Et donc il est, et il a raison de le dire, important de ne pas faire marche arrière sur non seulement tout ce qui a été fait, mais surtout ce qu'il reste à faire. Ensuite, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de prise en considération notamment de la compétitivité de nos entreprises, et ça le président l'entend parfaitement.
L'écologie ne doit pas être un handicap ou un obstacle au développement économique.
Nous considérons que la transition écologique est un atout concurrentiel pour nos entreprises françaises et européennes. Ce qu'il ne faut pas, c'est que la réglementation soit si lourde parfois qu'elle empêche effectivement les entreprises de libérer leur développement économique. Et donc, il n'y a pas d'opposition entre la transition environnementale, écologique, énergétique et le développement de nos entreprises.
Dans l'opposition, le remontage de bretelles du président est commenté. Sur BFM TV, Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste, réagissait ainsi tout à l'heure.
J'ai lu le titre du Parisien « Je n'ai pas de leçons d'écologie à recevoir ». Ah ben, s'il n'a pas de leçons d'écologie à recevoir, il a des leçons de vie à prendre, en tout cas. Moi, j'aimerais bien qu'il se mette à la place d'un couple de retraités qui n'aura plus la possibilité de se rendre dans les grandes capitales, Lille, Marseille, Paris, parce qu'ils ne peuvent pas changer leur véhicule. Il n'y a pas de politique écologique dans notre pays, il n'y a pas de justice sociale non plus. Et il faut les deux. Les ZFE, ce sont des zones à forte exclusion, qui excluent les gens, qui leur empêche de se déplacer. On a un gouvernement qui, aujourd'hui, navigue à vue. Enfin, ce qu'ils font sur la prime rénov, mais enfin, c'est du grand n'importe quoi. Là, ils s'attaquent aux artisans.
Trop d'abus. Et l'ANA, l'Agence nationale pour l'habitat.
Là, la prime rénov, pour le coup, il y a une mesure.
Sous les demandes,
il y a une mesure qui est juste, qui fait appel aux artisans pour rénover les logements, justement, pour faire face aux problèmes climatiques. Il y a des gens, des classes moyennes, qui ont un bien, qui veulent le rénover, et qui se retrouvent aujourd'hui dans l'incertitude.
Alors, Émilie Zapalski, fondatrice de l'agence Émilie Conseil, le président qui claque ainsi le Premier ministre sur la politique écologique qu'il mène, c'est violent et c'est inédit.
Oui, mais c'est un petit peu factice, c'est une colère un peu factice pour se donner bonne conscience, parce que si on fait un petit peu un retour en arrière, on a déjà des signes de baisse de ces investissements vis-à-vis de l'environnement sous Gabriel Attal, donc véritablement avec le socle commun qui était aux manettes à l'époque. C'était des décisions donc de Gabriel Attal, Bruno Le Maire, donc on tapait déjà dans l'écologie, les investissements environnementaux. Quelque part, donc il y a ce point-là. Et puis deuxième point, c'est un peu factice parce que Emmanuel Macron a quand même semé le bazar et créé cette situation par la dissolution,
ça, on va y venir.
Qui fait, oui, on y viendra, mais qui rend possible ce genre de recul en matière d'écologie. Donc je trouve que cette opération de communication, encore une fois en colère par rapport à des décisions, elle est très factice. Et encore une fois, c'est pas un gouvernement, c'est pas des quinquennats qui ont montré fortement une implication vis-à-vis de l'écologie.
Mais alors, si le président de la République dit ceci aujourd'hui, dans ces termes-là, dans deux journaux, est-ce que c'est parce qu'il prend ses distances avec le gouvernement? Est-ce qu'il prend date? Est-ce qu'il donne des gages à un électorat qui ne comprendrait pas son renoncement à un des thèmes qui l'ont fait élire?
Oui, alors c'est un des thèmes qui lui ont fait élire en 2022, mais c'était aussi un peu opportuniste, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, encore un petit retour en arrière, mais la campagne présidentielle de 2022, qui avait été très écourtée, alerté parce qu'on était en pleine Ukraine, en pleine invasion de l'Ukraine par la Russie. Au départ, il avait fait une campagne très à droite, donc express. Il parlait de l'âge de la retraite, il parlait de l'assurance chômage, donc il était vraiment plus à droite. Et dans l'entre-deux-tours, il a un petit peu suivi ce que Mélenchon avait fait sur l'écologie. Et ce qui a beaucoup marché, et c'est pas que ça qui a marché, mais c'est vrai qu'il a tourné un petit peu sa veste sur le vert et sur l'écologie. Probablement, il essaie de ne pas renier cette ligne qu'il a essayé de se donner, mais je trouve que, encore une fois, c'est pas quelque chose qu'il porte depuis longtemps. On se souvient encore de ses vœux cette année, hein, qui disait qu'en gros, qui aurait pu deviner qui est tous ces changements et une crise climatique. Donc c'est pas l'ADN du macronisme, l'écologie. En tout cas, ça peut l'être en surface, mais pas profondément.
Peut-on dire que si le président s'en prend ainsi à la politique de son premier ministre, c'est que résolument on n'est plus dans l'idée d'une coalition, ce qui a été avancé, mais résolument dans une cohabitation.
Emmanuel Macron, il a toujours un problème, c'est quand un Premier ministre commence un peu à réussir, et quelque part, François Bayrou, il réussit déjà à rester, à conserver son gouvernement. Emmanuel Macron, ça le rend fou, finalement, quand les gens réussissent. On a eu la même chose avec Édouard Philippe, hein, durant la crise sanitaire. Il réussissait, il prenait la lumière tellement que il a fallu sa peau. Donc, il y a cette espèce de jalousie, quelque part, et on sent bien que c'est un président, encore une fois, depuis la solution que personne n'a compris et qui ne contente personne, qui a du mal à se faire sa place. Il y a eu une séquence européenne avec la guerre en Ukraine, avec les différents responsables européens qui se sont déplacés, vous savez, des belles photos dans le train, et une belle séquence de communication qui a plutôt bien réussi et qui a augmenté sa cote de popularité, mais c'est très rare ce genre de séquence. Donc il cherche un petit peu sa place, il cherche à se positionner, il crée en effet plus d'opposition vis-à-vis d'un François Bayrou qui, par l'immobilisme, réussit à rester. C'est vraiment un Emmanuel Macron qui cherche sa place actuellement.
Vous écoutez Dimanche Politique sur Radio France Internationale. Il y a un an, à un jour près, pile à cette heure-ci, nous étions en édition spéciale sur RFI pour les élections européennes, qui s'étaient soldées par un camouflet pour le camp présidentiel. Une heure plus tard, le président s'exprimait de l'Élysée.
J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale.
Cette déclaration déclenchait aussitôt un séisme politique. La classe politique était sous le choc et l'est encore aujourd'hui. Écoutons le socialiste Jérôme Gage au micro de RFI.
Un an après, à l'Assemblée nationale, c'est paralysie politique, c'est crispation et brutalisation encore plus grande du débat politique. Bref, c'était une décision folle.
Charles de Courson va plus loin, il est député du groupe Liot.
En fait, il a voulu organiser le chaos. Il a assez bien réussi d'ailleurs, pensant qu'il allait reprendre la main. Les Français en ayant marre, allez revenir. Il s'est complètement trompé.
Des élections législatives avaient donc alors été organisées en seulement 3 semaines. Le parti présidentiel les perd, le RN les gagne, LFI aussi. Emmanuel Macron nomme Michel Barnier, puis François Bayrou à Matignon. Cela profite d'ailleurs à l'ancien socialiste et Premier ministre qu'Emmanuel Valls, il le reconnaissait ce matin, non sans humour, sur Europe 1.
C'est une idée originale, en tout état de cause. Elle m'a permis peut-être d'être au gouvernement. Comme le dit d'ailleurs assez justement souvent François Bayrou, le Premier ministre, il dit « si nous sommes là, c'est parce que la situation est particulièrement difficile et il a raison ». Moi, dans mon domaine, j'agis. Je présente en commission des lois la deuxième loi concernant Mayotte. Je présenterai en Conseil des ministres une loi pour lutter contre la vie chère. La loi de finances, la loi de financement de la sécurité sociale ont été adoptées. La loi contre les narcotrafics que tout le monde a salué. Et je crois, honnêtement, dans des conditions évidemment très difficiles sur le plan politique, que le gouvernement agit.
Manuel Valls dit donc que le gouvernement fait des choses. Tout à l'heure, vous parliez d'immobilisme, Émilie Zapalski. Donc, est-ce qu'on est dans une sorte de trompe-l'œil?
En tout cas, on ne peut pas avoir de grandes réformes ambitieuses. Ça, ce n'est pas possible. Ça pourra pas passer dans un Parlement qui est si morcelé, ça c'est sûr. Par contre, il y a quelques propositions de loi, on en parlait, celles qui ont détricoté un petit peu les mesures ZFE, la loi du plomb pour l'agriculture. Donc il y a quelques propositions, mais c'est des initiatives qui sont très, j'allais dire, localisées, enfin très pointues, parce que justement, on peut pas envisager de réforme qui ait une plus grande ampleur. On a eu quand même la fin de vie, alors ça c'est une réforme sociétale, enfin on a eu, ça passe. Donc voilà, il y a quand même des choses choses qui se font, mais c'est très limité. Et par rapport à la situation économique et financière et l'ambition qu'on aurait envie d'avoir, non, ça, c'est pas possible. Ça peut pas passer au Parlement.
Alors, un an plus tard, le pays est globalement difficilement gouvernable, faute de majorité à l'Assemblée nationale. Barnier a été censuré. Bayrou pourrait l'être, comme l'évoquait ce midi Jean-Philippe Tanguy, député de la Somme du Rassemblement national, sur le plateau de la chaîne Info.
Solution, moi je comprends que les Françaises et les Français aient été refroidis par cet acte politique qui avait l'air irrationnel d'Emmanuel Macron. Bon, moi je pense qu'il l'a fait pour cacher ses turpitudes financières et qu'il savait qu'à l'automne, il allait se prendre une motion de censure du Parlement et qu'il aurait été bien en peine de faire campagne contre la catastrophe budgétaire qu'il avait réussi à l'été encore à cacher aux Français. Bon bref, notre pays par contre totalement paralysé. Donc moi j'alerte nos compatriotes, mais qu'il ne se passe rien depuis un an. Nous allons mettre la pression sur M. Bayrou pour montrer que seule la voie des urnes est possible, donc la dissolution.
Donc une motion de censure, les RN y songe et en parle de plus en plus pour mettre la pression sur le gouvernement. Cela au moment où il pourrait y avoir donc une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale permise par la Constitution. Ce n'est pas un hasard de calendrier, Mélisa Pelski.
Pour le RN, vous voulez dire
cette prise de position.
Oui, alors c'est... Je pense que le RN, ils sont en situation très difficile. Donc, ils ont besoin quand même d'exister, besoin de montrer qu'ils font cette pression sur le gouvernement, sur Macron aussi, ces mots difficiles, parce qu'ils sont pas en bonne posture. Hein. Il y a ce procès donc et cette condamnation de Marine Le Pen qui la rend pour le moment inéligible. Ils ont ce plan B, Bardella, mais qui est pas tout à fait crédible, en tout cas pour une partie de l'électorat. Donc, ils ont besoin de monter au front et de pouvoir s'exprimer. Tanguy, quel meilleur numéro pour exprimer cette colère et cette pression. Je pense que ça n'arrangerait personne une autre dissolution. On sait que c'est possible à partir du 8 juillet, mais pour l'instant, ça n'arrange personne.
D'ailleurs, il y a ce sondage et là pour la Tribune dimanche qui montre que 2/3 des Français sont défavorables à une nouvelle dissolution.
Ben oui, parce qu'ils en ont marre, ça les a surpris, ça a surpris tout le monde, hein, même nous, les médias, les commentateurs, tout le monde. Et ça crée beaucoup de chaos, ça crée un Parlement qui a du mal à émerger, comme on le dit, à prendre des décisions un peu d'ampleur. Les Français, ils pensent que ça a créé beaucoup de conséquences même économiques et financières pour eux même, hein, très très proches dans leur quotidien. Donc ils sont pas contents, ils ont envie d'avoir un petit peu de visibilité, de vision et qu'on puisse agir sur leur quotidien, ce qui n'est pas le cas pour l'instant.
Philippe Le Caplin.
Après LR, c'est le PS qui a voté pour désigner son chef. Olivier Faure reste le premier secrétaire du parti, mais cela a été tout juste. Hein. Il a obtenu 50,9% des voix face au maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, qui a déclaré que rien ne sera comme avant. Pour lui, il faut donc que soit clarifiée la ligne politique et notamment la question du rapport à la France insoumise. Éric Coquerel, député LFI, justement, député de Seine-Saint-Denis sur RTL aujourd'hui.
Monsieur Faure, il exclut LFI, donc il exclut en réalité la force qui peut permettre justement que la gauche reste sur un programme de rupture. C'était quoi le Parti Socialiste faisant le NFP, enfin la NUPES puis le NFP ? C'est un parti qui a tenu compte des élections, peut-être qu'il avait commencé aussi à changer par rapport aux années Hollande, et qui a accepté de revenir à un vrai programme de gauche, de rupture avec le néolibéralisme, notamment le productivisme. Là, on me dit maintenant, donc, si bien compris, Olivier Faure exclut les alliances avec France Insoumise. Qu'est-ce que France Insoumise, au-delà de Jean-Luc Mélenchon ? C'est la garantie d'une gauche qui repart sur un programme de rupture, qui renoue avec ses valeurs.
Autre parti avec lequel le Parti Socialiste s'est allié il y a un an dans la bataille législative, c'est le PC, le Parti Communiste. Fabien Roussel, son secrétaire national sur BFM TV.
Félicitations, c'est un congrès démocratique, ils ont débattu, ils ont voté, et il y a un résultat qui sort des urnes, c'est la démocratie. J'ai adressé mes félicitations à Olivier Faure, nous nous connaissons, on a échangé hier, on va continuer de se parler, tant mieux.
Olivier Faure qui va devoir travailler sur un programme fédérateur, il défend l'idée d'une grande plateforme programmatique de Glucksmann à Ruffin. Il lui faut entériner le divorce avec LFI, ce qui représente un risque certain pour les élections municipales de l'année prochaine, Émilie Zapaski.
On a du mal quand même à imaginer qu'il n'y ait pas des petites alliances ici ou là, localement, pour les élections municipales, parce que, comme le disait Éric Coquerel, c'est vrai que LFI est quand même une force au niveau élection qui est indéniable. Mais il y a cette question quand même de savoir plus officiellement quelle est la ligne et est-ce que cette coupure avec LFI se concrétise. Je pense vraiment qu'il y aura les deux choses en parallèle, c'est-à-dire un positionnement vis-à-vis de LFI et localement probablement des alliances qui se feront dans certaines municipalités pour gagner. Là, il y a quand même un changement avec cette élection, c'est que on voit que c'est vraiment à peu de choses que Olivier Faure a gagné. Donc il y a un peu cette obligation d'ouvrir un peu les vannes à Nicolas Mayer-Rossignol et ce pan-là du Parti Socialiste qui veut redorer le blason du Parti Socialiste, d'un parti social-démocrate. Comme on a vu quand même qu'il y avait une fenêtre de tir au moment des élections européennes avec le score de Raphaël
Parce
Glucksmann.
Parce que la social-démocratie ne semble plus faire recette. Le PS est seulement 40 000 adhérents. Et quand on parle de parti de gauche, on pense LFI, on ne pense pas à PS.
Je suis d'accord parce que dans les faits et dans les chiffres, c'est ça. Mais globalement, on a vu quand même, et je le disais, au moment des élections européennes, Raphaël Glucksmann, qui relève un petit peu de cette social-démocratie avec Place Publique, a réussi quand même un bon score aux européennes. On voit qu'il y a une appétence quand même pour une gauche qui soit autre que la gauche que propose la France insoumise. Par contre, tout est à créer. Le programme, les idées, il y a des personnalités qui commencent à émerger, mais il y a quasiment tout à refaire. Et en effet, comme vous le dites, ils ont perdu beaucoup d'adhérents, mais ils ont perdu tout, en fait, les idées, les adhérents. Et cette alliance avec LFI, même si elle a été gagnante sur une partie des élections législatives, bah, peut-être qu'elle les emmène dans un chemin un peu noir qu'il s'agirait maintenant de quitter. Moi, j'ai l'impression quand même qu'en face, avec l'émergence de la candidature de Bruno Retailleau, donc à la fois ministre de l'Intérieur et puis patron des Républicains.
Mais largement, là. Hein.
Largement.
75,
là, c'est très large. Et qui est très droite dure, hein, très droite dure. On a l'impression qu'à gauche peut se reformer en contre-miroir, un miroir inverse, une gauche qui, justement, si elle arrive à monter sur des thèmes, y compris sur des thèmes régaliens, mais à sa façon, pourrait faire le pendant et on retrouverait un clivage gauche-droite. Mais là, je fantasme un peu, parce que la gauche, encore une fois, cette gauche social-démocrate, en tout cas le PS, a tout à reconstruire de ses cendres maintenant.
Olivier Faure est donc réélu pour la quatrième fois à la tête du parti. Peut-il prétendre, selon vous, être le candidat du PS à la présidentielle qui aura lieu dans 2 ans? Sachant que le résultat de cette semaine percute la légitimité de sa candidature.
Oui, et puis je veux pas être désobligeante, mais c'est une personnalité qui, globalement, moi je parle là en termes de communication, a du mal à émerger. C'est quelqu'un qui a des bonnes idées ou quoi, mais qui n'est pas une personnalité qui monte, qui est au premier plan, qui peut être sous la lumière. Il a fait des bons débats, il a tenu le choc, mais voilà, quand on le voit par rapport à des Bruno Retailleau ou même des Darmanin, même des Bardella, on a du mal à imaginer qu'il puisse monter en puissance. Et comme vous le dites, cette élection qui se fait à peu de choses près, ça remet en question sa candidature qui serait naturelle. Ça va être une autre paire de manches de savoir comment ils vont s'organiser, est-ce qu'ils vont faire une primaire, qu'est-ce que ça va représenter. Ça va être des miettes de pas grand-chose, comme ça a pu déjà se passer auparavant. Donc il y a vraiment tout un travail, je pense, de fond à faire pour le PS pour qu'ils puissent remonter sur des marches qui soient un petit peu résistantes par rapport à ce qui se passe.
Mais est-ce que c'est possible ? Ça urge. À la présidentielle, c'est dans un an et demi, quoi. Enfin, dans 2 ans.
Moi, je pense qu'on est dans un monde qui va de plus en plus vite au niveau de la politique. Je pense que ce qui va être très important, c'est qu'est-ce qui va se passer avec le post-macronisme, finalement. Comment vont se répartir les forces ? On sait qu'il y a quand même des gens qui faisaient partie de la gauche, qui ont voté pour Macron en 2017, qui ont revoté un petit peu déçus, mais quand même qui ont revoté pour éviter Marine Le Pen. Je pense que ces gens-là, ils se cherchent un parti, ils se cherchent une voix. Et probablement, la droite, ou en tout cas les propositions, que ça soit Bruno Retailleau ou Édouard Philippe, ne les convaincraient pas totalement. Donc il y a peut-être quelque chose à faire, mais ça reste encore incertain et il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire, en peu de temps, comme vous l'avez dit.
Vous le dites, enfin on le sait, vous êtes une spécialiste de la communication politique. Est-ce que vous voyez que les choses deviennent un peu plus brouillonnes aujourd'hui, quand on voit par exemple ce que disait Emmanuel Macron tout à l'heure, que c'est un petit peu désespéré, qu'il n'y a plus de lignes fortes dans les prises de parole?
Oui, c'est vrai. En tout cas, s'il y a des lignes fortes, elles sont un petit peu caricaturales. C'est souvent sur des choses un petit peu superficielles, artificielles. C'est des coups de com'. On est plus dans les coups de com' politiques que dans de la véritable politique à l'heure actuelle. Le Parlement fait qu'il n'y a pas tellement de possibilités de faire autrement. Emmanuel Macron, qui est un petit peu, si je peux dire, en fin de règne, il essaie d'agir comme ça. Les uns les autres à droite font la surenchère des mots les plus forts, les barbares, l'ensauvagement, des choses comme ça. Donc on est plus souhaité sur des coups de com' à l'heure actuelle, c'est un peu décevant, mais ça ne veut pas dire que demain, il n'y aura pas des choses plus positives et plus ambitieuses.
Merci pour ces analyses et commentaires, Émilie Zapalski, spécialiste donc de communication politique et fondatrice de l'agence Émilie Conseil. C'était Dimanche Politique sur RFI.